Jean-Claude Grimbert, bonjour.
Bonjour.
Vous serez le 28 mai à Moissac. Vous avez été invité à participer à ces rencontres qui s'appellent des villes et des justes. Vous avez accepté pourquoi ?
Parce que Jean-Claude Simon me l'a demandé. Et aussi parce que il y a un an ou deux, j'étais à Agen et j'avais été invité parce qu'on jouait mes pièces là-bas. Il y avait une opération sur l'ensemble du département. Et j'avais demandé, puisque j'étais à Agen, aller voir Moissac. Et j'étais à Moissac et c'est là que j'ai rencontré Jean-Claude Simon. Et je me suis senti... Alors, je n'avais aucun souvenir du lieu, je n'avais aucun souvenir de ma présence ou de... Mais
aucun souvenir parce que vous étiez trop jeune quand vous y étiez.
J'étais très jeune. J'étais très jeune, je suis né en 39, j'ai dû arriver fin 42 ou début 43, et je n'ai qu'un souvenir, c'est le vendredi soir, j'imagine que c'était le vendredi soir, les tables avec les bougies que je n'avais jamais connues chez moi. Voilà. Bon. Donc c'est le seul souvenir. Mon frère, qui avait 4 ans de plus que moi, qui était avec moi, a des souvenirs, mais qui ne me livre pas facilement, parce que c'est une période où...
Mais il était avec vous à Moissac.
Oui, c'est lui qui dirigeait la manœuvre. Donc on a été là tous les deux. Et je me... Voilà, arrivé à un certain âge, on se dit, ben, en fin de compte, on est là, on a vécu, on a fait des choses, plus ou moins, mais en fin de compte, on aurait pu ne pas être là, comme beaucoup d'autres. Voilà, alors, on s'en rend compte en vieillissant. Voilà, quand jeune, je ne pensais pas que j'avais échappé à quelque chose. Mon frère, si, parce que on avait été arrêté avec ma mère et emmené au commissariat du 10e arrondissement sous la mairie du 10e. Et de là, on avait été renvoyé dans nos foyers. Voilà. Et mon frère avait ce souvenir des véhicules pleins. Donc l'argument du commissaire, c'était qu'on n'arrêtait pas les Français. Et après, on a vu qu'ils avaient arrêté quand même un certain nombre de Français. Donc l'argument... Mon frère pense que c'est parce que les camions étaient pleins, voilà. Qu'il avait fini sa journée et qu'il en avait marre. Donc j'ai vécu avec ces deux idées-là. Tout ça pour dire que, bien que je n'ai aucun souvenir de Moissac, j'ai toujours eu un attachement. C'est-à-dire, quand on me dit où tu étais pendant la guerre, je dis à Moissac. Au point qu'un jour, j'ai eu un coup de fil, je pense que c'était ton père, qui m'a dit « Allô, vous dites que vous étiez à Moissac, j'ai aucun souvenir de vous. » Je lui ai dit ben, « J'ai aucun souvenir non plus, mais je n'avais que 3 ans, et donc c'est normal que vous n'ayez pas de souvenir de moi à 3 ans, c'est normal que moi à 3 ans, je n'ai pas de souvenir de vous. » Et ça s'est arrêté là, voilà.
Quand vous êtes venu à Moissac, c'était en mai 2014, et j'étais là ce jour-là et je vous ai entendu dire « En fait, je viens chercher des souvenirs que j'ai plus. »
Que j'ai pas.
Oui.
Oui. Mais je pense pas que j'en aurais. Voilà, j'ai pas de... J'avais fait une rencontre à Jérusalem avec Lucien Lazare. Et Lucien Lazare... Alors, il y avait une troupe qui montait Zone Libre, donc qui paraphrasait nos vies, bien que ça n'avait pas de rapport avec ce que moi j'ai vécu, mais enfin, c'était une famille juive à la campagne. Et Lucien Lazare avait déjà parlé aux acteurs israéliens, qui ne connaissaient rien et qui ne savaient rien, mais il leur avait déjà tout dit. Donc j'étais là un peu... Il faisait très froid, j'ai eu rendez-vous avec Lucien Lazare dans un café, on m'a mis une chaufferette sous les fesses, donc j'avais les fesses très chaudes, mais il faisait très très froid. Et donc, j'étais assez énervé, quoi, d'avoir traversé la Terre, de me retrouver à Jérusalem, face à un historien français, en fin de compte. Et il m'a demandé où j'ai passé la guerre. Alors, j'ai dit que j'avais été à Moissac. Il m'a dit, mais j'ai fait du convoyage d'enfants à Moissac. Et je lui ai dit, puis après, on était à la grave. Mais je connais la personne qui vous a emmené à la grave. Et je dis, de la grave, on a été dans des familles, mais j'ai aucun souvenir de la famille dans laquelle on était. Il dit, mais je peux vous donner les adresses de la personne qui s'est occupée de la grave à vous placer dans les familles. Et je lui dis, écoutez, c'est gentil, mais...
Ouais.
Voilà, c'est... Et mon frère a eu la même démarche, puisqu'il a demandé à Jean-Claude de trouver la personne qui... Alors, Jean-Claude lui a trouvé la personne, et brusquement, il dit, bah, qu'est-ce que je vais aller lui dire? Voilà, c'est passé. Donc, c'est pas la recherche de souvenirs. C'est une forme de comment dire, de fidélité, voilà, de un attachement. Je suis attaché à la mémoire de mon père sans avoir aucun souvenir de mon père. Je sais pas comment il était, je sais pas s'il avait un accent, je sais même pas s'il écrivait. J'ai jamais demandé à ma mère si lui écrivait en français, alors que ma mère qui était née en France était illettrée pour des raisons. La guerre 14 était intervenue, ils étaient repartis en Autriche-Hongrie, quand ils étaient arrivés, la guerre était finie, c'était plus l'Autriche-Hongrie, c'était la Biélorussie, voilà, bon. Donc, c'est des histoires, donc je ne cherche pas des souvenirs. En fait, j'en ai trop, mais des bribes, voilà, des choses. Et donc, Moissac et la région toulousaine, en général. Alors, Toulouse, parce qu'il y avait la résistance juive, parce qu'il y a eu... Et la photo que j'ai donnée, là, c'est une photo prise à Toulouse. Et je ne sais pas si c'est avant d'arriver à Moissac ou en repartant de Moissac, puisqu'il y a une autre photo où il y a une cousine de ma mère qui vivait à Toulouse et qui est sur la photo aussi.
En tout cas, Moissac, ça a été, ça semble être déterminant dans votre histoire personnelle.
Ben, c'est le pivot, c'est-à-dire que jusqu'au départ. Alors, j'ai du mal à organiser tout ça. Mon père a été pris une première fois. Il a été à Drancy, et de Drancy à Compiègne. Mais ça, je l'ai su très tard, parce que pour moi, il avait été à Compiègne, libéré de Compiègne, et repris, et la deuxième fois seulement à Drancy. Et Annette Vivorca m'a dit, c'est pas possible. À la date où tu dis qu'il a été pris, Compiègne n'existait pas. Et donc il a fait partie de ces 300 ou 400 personnalités qui sont passées de Drancy à Compiègne. Mais lui, ça n'était pas une personnalité. Donc quand il a été libéré, il a dit à ma mère qu'il s'était fait une clientèle pour l'après-guerre, qui allait faire des costumes sur mesure à tous les avocats, à tous les médecins, à tous les... Donc il était très confiant. Il était si confiant qu'en fin de compte, il a attendu, on lui avait laissé une sorte de délai de séjour, voilà. Et ils sont venus le chercher, ils l'ont repris, ils l'ont emmené à Drancy, et de Drancy, il est parti. Donc c'est une histoire aussi où j'ai fait attention en fait à ne pas trop, parce que mon grand-père, donc le père de mon père, était aveugle. Et ma mère m'a raconté l'arrestation de mon grand-père. Et il y a toujours des détails qui tuent, quoi. C'est-à-dire que c'est les policiers, les flics qui sont venus les chercher, puisqu'il y avait ma grand-mère, ont pris l'aveugle et l'ont porté dans l'escalier. Alors, par gentillesse ou pour aller plus vite. Et ils ont laissé ma grand-mère qui avait eu une crise de colique. Et donc, leur fonction ne s'abaissait pas jusqu'à ramasser Et elle est morte quelques jours après des suites de sa maladie, j'imagine. Donc... voilà, quand on est enfant, on vous raconte ça une fois, deux fois, Après, on dit, bon, Et c'est quand j'ai failli perdre la vue que j'ai beaucoup pensé à mon grand-père et encore plus à mon père qui devait, à Drancy, s'occuper de son père aveugle. Et j'ai vérifié, là, grâce au bottin de Klarsfeld, qui a beaucoup changé la vie des familles, hein, je pense, qui a été quand même la chose essentielle. Je me suis aperçu avec un certain soulagement qu'ils n'étaient pas partis ensemble. Qu'il y avait eu 2 mois entre le départ de mon grand-père et ensuite le départ de mon père. Tout ça pour dire que ce qu'il y a de positif dans cette histoire, c'est Moissac. C'est-à-dire le fait que des gens, nous on l'appelait l'infirmière, une dame habillée en infirmière, nous a emmenés. Il paraît que j'ai passé en zone libre, j'ai passé la ligne de démarcation sur les genoux d'un soldat allemand que j'appelais papa. Je n'y crois pas, mais enfin, mon frère m'a toujours affirmé ça, en me traitant de salaud. Voilà, on est arrivé dans un endroit, je n'ai aucun souvenir, mais je sais que ça signifie que des tas de jeunes... voilà, quand on me dit les justes et tout ça, moi je pense à ces jeunes juifs et à ces plus âgés qui, au lieu de s'occuper de sauver leur peau, s'occupaient de sauver la peau des gosses et des... Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est une chose très, très importante, même si... il y a des tas de choses très importantes pour moi auxquelles je ne comprends rien et je n'ai pas fait l'effort de m'intéresser vraiment à ces choses. Donc, je connais très mal l'histoire de Moissac, je connais... Les scouts m'ont toujours fait un peu rigoler. Mais, voilà, il se trouve que... alors, pendant très longtemps, ma mère, quand elle parlait de l'arrestation de mon père, elle disait les Allemands. Au bout d'un moment, un jour, je lui ai dit, écoute, maman, arrête de dire les Allemands, c'est pas les Allemands. Ah si, c'est les Allemands. Je lui ai dit, mais non, c'était des flics. Oui, t'as raison. Enfin, c'est mieux de dire les Allemands. Voilà. Donc, il y avait des petits arrangements comme ça, comme avec les communistes. Bon, après, j'étais dans des colonies de vacances où il y avait beaucoup d'enfants de déportés, dont certains étaient peut-être passés par Moissac. Mais on ne se parlait pas de ça, on se parlait de Staline, on se parlait de l'avenir radieux. Moi, j'ai eu des doutes très tôt. Voilà, un jour, je me suis demandé si Staline, c'était pas un salaud comme les autres. Pas m'ont dit non mais t'es dingue, alors j'ai arrêté tout de suite. Enfin j'ai quand même eu ce sursaut vers 13 ans.
Et vous avez continué d'y penser. Mais cette scène du passage de la ligne de démarcation sur les genoux d'un soldat allemand, c'est tellement ironique et tellement distancié que ça pourrait être dans une pièce de Jean-Claude Grimbert. Ça.
Oui, oui. Mais alors c'est des souvenirs, je ne sais pas d'où ils viennent, parce que je ne m'en rappelle pas.
Ouais, ouais.
Alors... Est-ce que c'est mon frère qui m'aurait inventé une histoire? Parce qu'il inventerait plutôt des histoires plutôt que me raconter des vrais souvenirs. Il y a des choses qui se sont passées dans notre vie qu'il m'a raconté il y a 5-6 ans. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu ne m'as pas dit ça, je voulais garder des souvenirs à moi. Donc voilà, chacun fait sa cuisine avec...
Construit son histoire.
Voilà.
Et est-ce que ce moment très particulier, en plus entre fantasme, souvenir, réalité, a aussi marqué ce qui, plus tard, va devenir votre œuvre? Parce que au-delà de ça, vous êtes aussi un des grands auteurs français à l'heure actuelle.
Oui, c'est gentil de le dire, mais...
Non, c'est une réalité.
Je rapetissis de jour en jour, je me tasse. Ce qu'il faut dire, le sentiment que j'ai, c'est que si je n'avais pas eu cette vie-là, je n'aurais pas écrit. Voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est quand même ce qui m'a fabriqué. Et que cette absence de souvenir, opposée au souvenir très douloureux de mon frère, qui avait 4 ans de plus, et donc qui était chef de famille à 7 ans, quoi. Voilà. 7-8 ans, il était responsable d'un niard qui... Les rares photos que j'ai vues, j'avais quand même la tête un peu penchée. J'étais J'étais pas jovial comme. Et lui a. Disons que moi, je suis une sorte de participant sans douleur. Voilà. Ou en tout cas, sans souvenir de douleur. Alors, après-guerre, quand on est rentré à Paris, je sais qu'on pleurait, qu'on criait la nuit ensemble. Mais je pense que c'est lui qui devait démarrer. Voilà, moi je devais suivre. Donc on dormait dans le même lit. Inexplicablement, on a dormi dans le même lit jusqu'à ce qu'il parte au service militaire. Alors qu'on avait un oncle qui était marchand de meubles. Il mettre deux lits. Enfin, c'était moins cher de mettre un seul lit. Et donc, voilà. C'est... Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter ? C'est-à-dire que c'est... Là, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « La vie sexuelle des mollusques ». Oui. On m'a interviewé à ce sujet. Et j'ai dit, hors micro, j'ai dit « C'est plus facile pour moi de parler des juifs que de la vie sexuelle ». Voilà. Mm-hmm. Et c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça, quand on m'a reproché dans les années 70 de parler encore de ça... J'ai envie de leur dire, mais de quoi voulez-vous que je vous parle ? J'ai aucune... Voilà, donc je pense que si vous demandez est-ce que ça a influencé, c'est pas que ça a influencé, ça a créé. Enfin, je n'étais pas destiné à écrire, je n'étais pas destiné à devenir comédien, j'étais destiné à devenir tailleur, quoi, ou faire des études... D'ailleurs, j'ai été tailleur, très très mauvais.
Mais ça vous a inspiré l'atelier.
Ça m'a inspiré l'atelier, oui. Donc c'est bien la vie des gens, mais ce qu'il y a dans l'atelier, c'est la déportation.
Bien sûr. Voilà. Mais aussi, ce qui donne sa sensibilité à l'atelier, c'est cette...
J'ai fait 18 places.
Cette, voilà.
Donc, j'ai vu 18 patrons, tous... fou. Mon épouse avait un atelier à l'époque, donc j'étais tous les jours dans un atelier. J'ai la chambre dans laquelle on a dormi mon frère et moi après-guerre, c'était l'atelier de mon père, qui était l'une des trois demi-pièces qu'il y avait dans l'appartement. Et moi, j'ai connu cet atelier sans lui, c'est-à-dire avec encore... les tables, la presse, et puis après j'ai habité cette chambre pendant 15 ans, quoi, 20 ans, plus même, jusqu'à ce que je me marie, quoi, jusqu'à 25 ans, j'étais dans l'ancien atelier de mon père. Donc j'ai toujours vécu dans des ateliers.
Parce que vos pièces pourraient avoir un côté didactique du fait de cet élément déclencheur. C'est toujours des pièces humaines, c'est toujours des personnages très profonds. Et puis c'est aussi ce qui fait que vos pièces, elles sortent, elles s'adressent pas, au monde juif. Vos pièces. Elles sont. Moi, j'ai découvert. J'avais, je crois, une vingtaine d'années quand j'ai lu pour la première fois vos textes. Jamais une seconde, j'y ai vu d'allusion aux juifs. J'y ai vu une ouverture sur le monde, j'y ai vu des choses qui me parlaient, j'y ai vu des... j'aimais beaucoup, j'aurais voulu monter à Amorf d'Ottenburg à un moment donné. J'y voyais tout à fait autre chose, quoi.
Alors Amorf, c'était l'une des premières fois que j'essayais de m'approcher du nazisme en général. Voilà, j'étais très jeune et je n'osais pas encore, en fait, justement, parler des juifs. Donc je parlais en général en fait, ce qui m'avait frappé dans le nazisme, c'était l'extermination des bouches inutiles avant notre propre extermination, quoi. C'était quand même une... Alors... Au sujet de l'aspect didactique qu'auraient pu avoir j'étais préservé de ça parce que j'étais allé... En fait, j'ai pas eu une scolarité très brillante et surtout très longue. À 14 ans, j'étais dans un atelier, quoi. On peut dire que c'est une malchance, voilà, d'avoir eu cette vie-là, et qu'en même temps, c'est une chance d'avoir échappé à, je vais dire une énormité, aux études. Voilà.
Oui.
J'étais pour faire du théâtre, il faut peut-être, je suis devenu comédien, et c'est le fait, j'aurais jamais osé écrire si je n'avais pas été comédien. Voilà. Donc, mais une fois que j'étais comédien, comme je travaillais très peu, écrire, c'était une manière d'avoir un statut social. Si j'étais assis au café en train de boire un thé, à l'époque, je devais boire des limonades, mais on se disait, ah, bah, il travaille, il est en train de penser. Enfin, je pensais à rien. Mais, donc, ben, oui, mais en même temps, j'aspirais au didacte. C'est-à-dire, j'aurais voulu être un intellectuel comme les autres. J'aurais voulu être brechtien, j'aurais voulu être marxiste, j'aurais voulu... Mais il fallait que je dise des conneries au milieu de tout ça. Voilà. Bon, alors donc...
Mais aujourd'hui, on se souvient de vous et pas forcément de
vous. Ah bah oui. Mais c'était pas un choix... c'est pas une décision de ma part. Moi, la décision, ça aurait été plutôt de... D'ailleurs... Dernièrement, j'ai entendu ou j'ai vu un interview de moi au tout début, et avec mon épouse, elle m'a dit, mais t'étais épouvantable. C'est-à-dire que je parlais comme Jean-Luc Godard, quoi. Voilà, j'étais vraiment... J'essayais de faire comme si, quoi. Mmh. Mais ça n'a pas tenu.
Ben non, parce qu'il y a toujours une auto-ironie dans ce que vous écrivez qui est remarquable, quoi.
Alors, je vais vous dire, puisque là, on parle... pas obligé de te garder. Hein. Il s'est passé une chose, donc je me suis marié, je suis toujours marié avec la même personne, et on a eu un enfant. Et moi j'écrivais des pièces, mais pour moi écrire du théâtre c'était un autre moyen de gagner sa vie. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, comme si on touchait les droits d'auteur ou tout ça, mais je me disais, si j'écris une pièce qui allait jouer par un acteur célèbre, donc je voulais écrire des pièces de boulevard. Moi. Pas du tout l'ambition de... Et puis je ne pensais pas du tout à cette période-là, j'y pensais, si, j'y pensais, on en parlait beaucoup. Mais... je me sentais pas fils de déporté, c'est-à-dire que Bon, c'était comme ça. Voilà. Et cet enfant a eu la mort subite des nourrissons. Voilà. Et du coup, j'ai été rattrapé dans une période où en fait, je voyais que j'aspirais à devenir comme tout le monde, quoi. Écrire des conneries comme les autres. Et j'ai écrit une pièce la nuit. J'étais absent quand l'enfant est mort. Je suis arrivé et je ne savais pas, n'étant pas croyant. J'ai écrit une pièce. Et cette pièce était, je me suis aperçu que écrire, ça n'était pas gagner sa vie. Écrire, c'était exprimer ce qu'on ressentait.
Voilà.
C'est-à-dire la douleur, la colère. Et une fois que j'avais vécu ça, je ne pouvais plus revenir en arrière. Voilà. Donc c'est pas une décision de ma part. Je ne me suis pas senti la voix. Alors, des années plus tard, un jour je marche rue de Turenne. Il y a un type qui sort d'un magasin, qui me prend par le bras comme ça, qui me dit « Jean-Claude, t'écris pour nous, t'écris pour nous. » Je me retourne, je vois son visage, je vois le visage d'un gosse avec qui j'étais en Allemagne de l'Est ou en Tchécoslovaquie, avec les enfants déportés, la FNDI un peu, tout ça. Et rien que d'en parler, je me sens encore, voilà, c'est, en fait, j'ai été désigné comme le porte-parole de... Mais je n'ai jamais cherché à me retrouver dans cette situation. Voilà.
écrire pour ne pas mourir. C'est le titre d'une chanson d'Anne Sylvestre. C'est un
peu ça. Qui habitait dans la maison, Anne Sylvestre.
Ah ouais. Mais c'est un peu ça, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire.
Non, c'est écrire parce qu'on... C'est... Oui. Là, je n'écris pas depuis quelques mois. Je me sens pas en manque. Quoi. Voilà. Ouais. C'était pas vital. On m'aurait donné des grands rôles à jouer. On m'aurait dit, tu vas jouer Hamlet. J'aurais jamais écrit de ma vie. Voilà. Donc, et j'aurais mis la douleur dans les personnages. Il y a des tas de moyens de traiter avec ça. Alors, certains me disent, non, t'aurais écrit quand même. Là, je viens, voilà, cette pièce dont je parlais qui s'appelle Chez Pierrot, que j'ai écrite sous le coup de ce deuil, je viens d'avoir une demande là d'une troupe amateur qui demande à jouer chez Pierrot. Elle a 50 ans, la pièce. Alors, c'était en 66. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure à ma femme, elle m'a dit, t'es fière? Je lui ai dit non, mais enfin, voilà.
Elle a été mise au... Elle a été portée au cinéma, cette pièce, non?
Non, non. Non, non, ça s'est joué plusieurs fois. Ça a été un de mes plus gros bides, le théâtre de l'Atelier. Ah ouais. Pendant que Dreyfus triomphait, chez Pierrot s'effondrait.
Ah oui. Pourtant, c'est un texte qui est plus difficile d'abord, mais qui est très sensible.
Oui. Mais le écrire pour le théâtre, c'est une chose particulière. C'est comme si vous vous prépariez à passer un examen. Et que le jour de l'examen, vous en envoyez un autre qui ne s'est peut-être pas aussi bien préparé que vous ou qui n'a pas lu exactement ce que vous aviez préparé. Donc, c'est voilà, il faut accepter ça. C'est-à-dire que c'est un art d'interprétation. Il y a des interprètes, le metteur en scène est un interprète. Là, il était particulièrement déficient et ça s'est mal passé.
Ouais. Écrire pour le cinéma, c'est différent?
Vous êtes payé. Enfin, vous étiez payé, parce que maintenant on me fait des tas de propositions, on me dit vous écrivez, et puis on vous donne 2000 euros, voilà. C'est-à-dire qu'avant, pour écrire, on vous donnait l'équivalent de 30 000 euros, maintenant on vous donne 2000 en disant, hein, on prend des risques énormes et tout, voilà. Pourtant, peut-être qu'il y en a d'autres qui touchent.
Oui, parce que les productions semblent de plus en plus chères, par ailleurs.
Non, alors, la grosse différence, c'est que c'est quand vous écrivez une pièce de théâtre, à moins que ce soit une commande, ce qui m'est arrivé une fois, voilà, en général, vous vous passez commande d'un truc, vous vous organisez pour le faire. Voilà, l'atelier, ça a duré 5 ans, Zone VIP, ça a duré 10 ans, mais pendant ces 10 ans, j'ai fait une analyse et j'ai écrit beaucoup pour la télé, un peu pour le cinéma, mais l'atelier, j'ai tout arrêté pendant 5 ans. Alors, je pouvais me le permettre parce que mon épouse travaillait. Voilà. Et que tout le monde acceptait cet état de... Et si j'avais dû, alors, gagner la vie de la famille, j'aurais certainement écrit sur commande, mais pas du théâtre. Voilà. Donc, écrire pour le cinéma, bah, j'ai eu la chance d'écrire à Maine avec Costa Gavras. Sinon, c'est plutôt à la télé. L'avantage, c'est que vous êtes quand même, où vous étiez un peu plus libre pendant toute une période. Par exemple, la rue Lauriston, quand j'ai écrit la rue Lauriston, c'était Canal qui m'avait demandé. Donc, c'est une des rares fois où vous n'êtes pas demandeur. Mmh. Voilà. Donc, c'était luxueux comme aventure. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire? La grosse différence, c'est quand vous écrivez une pièce de théâtre, c'est un livre. Donc, c'est fait pour jouer, mais c'est fait aussi pour être lu. Le cinéma, vous pouvez écrire le plus beau scénario du monde, personne ne va jamais le lire. Et si le film n'est pas bien... Alors que, voilà, chez Pierrot, c'était mal monté la première fois, puis ça a été monté une autre fois, c'était pas si mal. Et puis voilà, les choses... Par exemple, l'atelier, ça a été monté très très bien, puisque je jouais le rôle principal. Et les comédiennes étaient formidables, qu'elles avaient improvisé certaines scènes où j'avais des problèmes et tout. Et Ensuite, ça s'est joué. Il y a eu des productions, j'imagine, pas formidables.
Mais il y en a eu de très bonnes aussi.
Voilà, mais il y en a eu de très bonnes. Donc, ça continue à se jouer. Et bon, maintenant, c'est dans les manuels scolaires, dans les choses comme ça. Donc, effectivement, c'est on ne va pas mettre un bout du texte d'un film que j'aurais pu écrire dans un livre de lecture. Voilà.
À Moissac, vous viendrez accompagné par deux comédiens qui joueront le petit chaperon Uff.
Alors, on a modifié ça. On va jouer chez les Uff. Alors, chez les Uff, ça va être une sorte de... Ça se termine par le petit chaperon Uff, mais ça commence par Michu, qui est ma première pièce. Et donc, c'est les 50 ans d'écriture. Il y a Michu, il y a un extrait de Dreyfus, il y aura un extrait de l'atelier, la scène de l'acte de décès. Il y aura Maman revient pour l'orphelin, et ensuite le petit chaperon Uff. Voilà. C'est ce qu'on espère, à moins d'incidents, où on changera le...
Le petit chaperon Uff, c'est à partir d'un conte, a priori, destiné aux enfants.
C'est une pièce pour enfants. Hein.
Oui, mais le petit chaperon rouge, c'est un conte qu'on dit pour enfants, mais qui a quand même une telle cruauté dont on peut
comme,
se...
Comme
beaucoup de contes...
Comme le petit Poucet.
Oui, absolument.
Celle qui se réveille au bout de 100 ans, là, avec
la Belle au bois dormant, oui.
Sa belle-mère et tout.
Non, mais bien sûr. Il y a toujours cette ambiguïté dans les contes, les contes de fées dits pour enfants. Le thème de ces journées, c'est des villes et des justes, et en particulier, ces villes de justes qui ont sauvé des enfants. C'est délibéré, le choix de ce texte d'abord destiné aux enfants, ou est-ce que c'est un hasard ou...
Alors, un jour, j'ai reçu un coup de fil de la radio, France Culture, j'imagine. Une jeune femme charmante m'a dit, voilà, je vous appelle, est-ce que vous accepteriez d'écrire une pièce destinée aux enfants, d'écrire une pièce sur la Shoah, qui durerait 26 minutes. Je lui ai dit, certainement pas. Voilà. Et puis j'ai raccroché. Mais comme toujours, quand on vous pose fait une proposition, quelle qu'elle soit, vous finissez par y penser. Et là, je me suis dit, petit chaperon rouge. Et alors, j'ai rappelé, 3 semaines après, elle m'a dit, non, c'est trop tard. Et donc, j'ai écrit ça. Voilà. Ça n'a pas été difficile. Hein. En plus, j'ai trouvé l'astuce de pas tout raconter, de pas tout dire. Et je dois dire que c'est une pièce... ma première pièce pour la jeunesse était Petit Violon, qui se joue énormément et qui... Et le Petit Chaperon Uff, c'est... Oui, je trouvais que pour moi ça, que c'était tout à fait... Mais on a fait chez les Uff, au Table de Poche, il y a quelques années. Et je pense que c'est la pièce pour la jeunesse qui... C'est pas celle que moi je préfère, au point de vue... mais c'est celle qui a le plus de sens, effectivement, et qui permet... Pourquoi c'est une pièce pour la jeunesse? Parce qu'il faut parler après. Je me souviens d'un débat où il y avait une dame qui disait « Mais les Uff, c'est quoi les Uff, pourquoi les Uff ?» Et il y a sa fille qui avait 10 ans qui lui a murmuré quelque chose à l'oreille. « Ah, mais alors, faut le dire, mais pourquoi vous le dites pas ?» Donc voilà.
Vous avez beaucoup écrit pour la jeunesse.
J'ai commencé tard.
Ouais.
Parce qu'un ami anglais voulait me passer une commande. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas l'anglais. Il dit, mais il y a des traducteurs. J'ai dit, oui, mais je ne vais pas avoir le contrôle, je ne saurais même pas. Il me dit, écris une pièce pour la jeunesse. J'ai appris après qu'ils étaient tous obligés de trouver des pièces inédites pour la jeunesse. Donc, c'était une proposition amicale, mais intéressante. Et c'est là où j'ai écrit le petit violon. Mais persuadé qu'il allait me foutre ça à la gueule, en disant non, c'est pas comme ça et tout. J'avais très peur d'écrire pour eux. C'est-à-dire s'adresser aux enfants, on peut dire des conneries aux adultes en se disant, ils n'ont qu'à corriger. Là, pour les enfants, c'est quand même...
Plus délicat.
Délicat. Mais j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. J'en suis à ma 10e, là.
Il y a une cohérence entre tout votre œuvre, qui est quand même traversée par la question juive. C'est presque une obsession. Et puis, ces pièces pour la jeunesse, qui est un peu décalée par rapport au théâtre pour enfants qu'on peut voir actuellement.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adaptent des contes.
Le théâtre pour enfants, c'est aussi un marché pour des écrivains, pour des compagnies qui trouvent pas forcément leur existence économique dans le théâtre pour adultes.
L'économie du théâtre pour enfants est suicidaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc il y a les grandes compagnies, les grands théâtres qui inscrivent des spectacles pour enfants, en général écrits par le directeur ou tout ça. Et ils le font comme il faut le faire, c'est-à-dire comme si on montait un Shakespeare. Le problème du théâtre pour la jeunesse, c'est qu'effectivement, c'est des petites compagnies qui peuvent alterner Mais si vous êtes plus de 3 sur le plateau, économiquement, ça ne marche pas. Voilà. Donc ça devient très très difficile et d'écrire.
Et de produire.
Et de produire. Mais je sais que les gens qui font ça ne font pas ça parce qu'ils n'arrivent pas à faire d'autres choses. Ils font ça parce qu'ils ont envie de le faire et que les autres choses... Attends, on voit bien, j'ai une pièce qui se joue, il y a Pierre Arditi dedans, le théâtre est plein. S'il n'y avait pas Pierre Arditi, on jouerait dans une salle de 150 places. Voilà. C'est-à-dire que c'est très difficile. C'est très... On peut dire qu'il y a eu une époque où il y avait le théâtre populaire, où il y avait Lillard, où il y avait des gens qui la décentralisation s'occupait, avait un souci de faire venir au théâtre des gens qui n'y allaient pas. Je pense que c'est terminé là. Donc il y a des troupes qui jouent localement, et ça, ça a été un des grands progrès. C'est-à-dire il y a du théâtre partout maintenant, mais à part les quelques théâtre subventionné qui monte en général les trois sœurs ou les sœurs Isès, qui est formidable, mais un peu lassant à la longue.
Et pas très productif d'une façon contemporaine.
La création est vraiment entre les mains de gens qui n'ont pas d'argent. Quoi. Et le théâtre privé, lui, en fait, c'est les quelques vedettes qui font du théâtre qui déterminent. Qu'est-ce qui va se jouer ou pas, c'est même plus les directeurs de théâtre. Je suis même pas sûr, si vous venez avec la distribution que j'ai, la Arditi et Rousseau, je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de lire, les directeurs. En 50 ans, disons que ça ne s'est pas arrangé. Et pour les auteurs débutants aujourd'hui, il faut d'abord presque indispensablement qu'ils deviennent metteurs en scène eux-mêmes et directeurs de compagnie. Et donc après, c'est une aventure de troupe que moi, j'aurais pas pu mener parce que d'abord, je m'engueulais avec tout le monde, donc ça n'aurait pas duré 8 jours. Hein.
Parce que vous êtes si difficile à vivre.
J'étais très difficile. Voilà, ça c'est une chose, disons, quand j'entends tous les problèmes de comment on est français, comment devenir français, quand je pense à nos vies, la police de notre pays a arrêté nos parents. Et on vivait dans ce pays-là. Et contrairement à ce que disent certains, on a eu raison. Hein, c'est-à-dire on n'avait pas de raison de partir. C'était pas... Mais on était dans une rage, on était dans une violence. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a tué personne. Voilà. On a eu de la chance de ne pas être embrigadé dans des trucs et tout. Mais les 70 ans que j'ai vécu... Je parle des 70 ans, donc après la guerre, il y a eu des périodes où j'étais, on m'aurait demandé si j'étais français, j'aurais hurlé non. Petit à petit, c'est justement par le théâtre, par la langue, par l'amour de la littérature, par la culture, que je suis devenu français, que j'ai accepté l'idée que c'était un accident de l'histoire, que c'est, voilà, que, comment dire... Oui, j'ai été très violent. Mais violent, sur des petites choses. Et je remarque, quand je parle avec mes neveux, mes nièces, qui sont aussi habités d'une certaine violence, qui ne vient pas de la même histoire, mais qui vient de cette incapacité de savoir quoi penser, de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut... voilà, l'amalgame, pas l'amalgame, le machin, le truc, c'est-à-dire que ils sont... Nous, on était dans une forme de violence, mais on avait une vie assez simplifiée, puisque il y avait d'un côté la gauche, d'un côté la droite. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Maintenant, il y a... Alors, ils veulent qu'il y ait encore la gauche, mais la gauche, face aux réalités, elle ne peut pas rester immobile en disant, mais... tout va s'arranger quand il y aura le socialisme, puisqu'on a déjà vu que... Donc c'est très... Je pense que la violence m'a aussi construite et m'a permis aussi de ne pas devenir un petit soldat du bien-pensé... voilà, même quand on me mettait un petit foulard rouge, je ricanais. Quand on chantait l'International, je ricanais. Alors je ricanais pour la Marseillaise, bien sûr, mais je ricanais aussi pour l'International. Alors après, il fallait voilà, de temps en temps Brassens, de temps en temps... Et même à l'époque, j'étais énervé aussi parce qu'il a adapté des poèmes. Et que les poèmes, il fallait dire les poèmes. Voilà, donc on disait jamais le nom des poètes, voilà. Alors, donc ça m'énervait quand Ferré chantait, pas Aragon, puisqu'on savait que c'était Aragon, mais d'autres. Voilà.
Aujourd'hui, on assiste à un renforcement des communautarismes, hein, une espèce de crispation des communautés, puis bien sûr une apparition d'une nouvelle forme de discrimination et d'opposition entre... on peut appeler ça des communautés, on peut appeler ça des groupes d'une façon plus générale. Comment vous le ressentez, ça? Comment vous le vivez?
Moi, j'ai vécu dans une communauté, avec 18 patrons, et puis ce qui restait de la famille, tout le monde était juif. Quoi. À l'école, on s'asseyait entre nous. Là, on était, donc, je pense que la chance de notre communauté, c'était qu'elle tendait vers l'universel. Voilà. Il y avait l'International, c'était les gens de droite qui disaient ça au 19e siècle, n'arrange que les juifs. Voilà. Ben c'est vrai, ça aurait été formidable qu'on forme une seule grande nation dans laquelle on aurait été les uns et les autres. Bon. J'irai pas vivre en Israël, j'ai besoin d'être juif et d'avoir des non-juifs à qui me frotter. Voilà. Alors après les communautés, c'est-à-dire que quand on cherche à faire des parallèles, nous on est une minorité dans la minorité. Voilà. Donc, même s'il y a s'il y a une partie de cette communauté qui devient extrémiste, religieuse et tout, sur moins d'un pour cent de la... du monde, le danger n'est pas très grand. Voilà. Bon. Alors on nous prête des pouvoirs occultes. Voilà.
Ça, c'est pas nouveau.
Donc moi, ce qui m'a passionné, c'est l'histoire de l'antisémitisme.
Ouais.
Voilà. Pendant très longtemps, j'ai été très axé là-dessus, après avoir travaillé sur Dreyfus, sur En revenant d'Expo, sur des choses comme ça. Si vous me demandez qu'est-ce que je pense de du fait d'être juif, pour moi, c'est malgré tout. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'être juif. Voilà. Pour moi, c'est une chance. Alors, peut-être que j'aurais pu vivre ça comme un malheur, mais c'est affreux ce que je dis, d'ailleurs. C'est affreux ce que je dis, parce que ça a été une catastrophe, quoi. Mais ma vie a été rendue passionnante par alors c'est pas une obsession, hein, c'est pas... Tout à l'heure vous avez dit, c'est, mmh. c'est, Non. Pour moi, la littérature américaine, alors il y a des Faulkner, il y a des tas. Mais ceux dont je me sens le plus proche, ah, c'est Malamud, c'est Saül Bellow, c'est plus modestement Runyon, c'est des gens qui. Et c'est eux qui m'ont formé. C'est-à-dire que. En fait, c'est pas Giono, c'est pas Queneau, c'est pas. Même si j'ai beaucoup aimé ça. Mais avant tout, j'ai lu les Juifs américains. Et puis, j'ai lu les grands. C'est-à-dire que je. Tout en adorant la langue française, mais d'une manière assez sauvage, c'est la. Le monde est venu par les livres. Mmh. Alors les livres, et dans ces livres, il y avait beaucoup d'écrivains juifs. Par exemple, j'étais content de trouver Hofmannsthal, mmh. de me dire, ah ben bon, Hofmannsthal, voilà, c'est enfin un écrivain viennois qui n'est pas juif. Ben il est juif aussi, voilà, bon, alors merde. Donc, voilà, c'est vrai que Zweig, c'est vrai que Joseph Roth, c'est vrai, Joseph Roth, il est mort au café où on a mangé l'autre fois, en haut de la rue de Tournon. Là. Donc je vis à côté de Joseph Roth. Quoi. C'est-à-dire, donc je me suis senti. Alors on ne choisit pas, mais je me sens le cousin de Saül Bellow. Je suis plus content d'être son cousin que voilà, Nathanael West. C'est quand vous lisez ça, vous sentez chez vous, voilà. Donc il y a une sorte de et je pense qu'on a été nombreux à vivre. Alors j'espère qu'aujourd'hui il y a d'autres liens entre les jeunes, il y a d'autres mais disons que oui, ça a été une chance formidable de vivre au milieu de... Maintenant, tout le monde parle de Woody Allen. Oui, Woody Allen, c'est formidable, mais c'est l'héritier. Il est pas comme moi, il est comme lui, mais ou je suis comme lui. Mais on est les héritiers de tous ces gens qui ont vécu, qui ont pensé sur cette chose étrange d'appartenir à la fois à une culture particulière, de forger cette culture particulière et en même temps d'être dans l'obligation de l'international. Et d'une chose qui, avant la création de l'État d'Israël, était dépourvue d'armée, était dépourvue de drapeaux, était dépourvue, voilà, et c'était les écrivains yiddish qui. Même si j'ai refusé d'apprendre la langue yiddish, puisque c'était dans les ateliers, j'aurais pu l'apprendre, mais je ne voulais pas rester là, donc je ne voulais pas l'apprendre. Puis c'était la langue de mon grand-père, qui, 50 ans après son arrivée à Paris, ne parlait toujours pas français et continuait à parler yiddish. Et je ne me suis pas engagé là-dedans. Mais j'ai lu les écrivains. À ce sujet, je veux raconter une anecdote. Je vais en Hongrie, au moment où la Hongrie était communiste, par force, hein, et je représentais les écrivains de langue française. Et je suis accueilli par une dame qui me dit « Oh, je vous présente la dame qui a traduit Dreyfus. » Ah, je dis « Bon, alors ça va te jouer ?» Et elle me dit, vous avez vu la pièce? Bon, après, ça continue comme ça, sur ce ton-là. Et la même dame qui m'avait présenté l'autre me dit, et maintenant, je vais vous présenter le délégué de l'Union soviétique. Alors, c'était les jeunes auteurs. Hein. Et je vois un mec de 80 berges qui arrive. Et elle me dit, c'est un grand écrivain soviétique. Et elle me dit son nom, alors je dis, il écrit en yiddish. Elle me dit, mais non, pourquoi voulez-vous qu'il écrive en yiddish? Mais personne n'écrit en yiddish, il n'y a pas d'écrivain de langue yiddish. Et je lui dis, mais comment Staline a pu en faire tuer 11 s'il n'y en avait pas? Elle me dit, c'est vrai. Mais comme il n'existe plus, on n'en parle pas. Ah. C'est-à-dire que, voilà, nous, on n'a pas eu à faire disparaître. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais ce n'était pas de notre fait. Voilà. On n'a pas été dans cette situation de nous nier, de... En fait, j'aurais pu ne jamais écrire, je n'aurais pas pu ne pas lire. Maintenant, je suis capable de passer une journée sans écrire et sans lire. Mais quand j'avais 12, 13, 14 ans, je devais lire un livre par jour. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Plus que tout, j'avais jamais été au théâtre quand j'ai commencé à faire du théâtre. Mais je lisais un livre par jour.
Plus qu'écrire.
Oui. Écrire, ça m'a amené connaissance. J'ai la Légion d'honneur, je suis commandeur des arts et des lettres, je suis ici. On n'a pas ça quand on ne fait que lire. Voilà. Mais mon activité principale, d'ailleurs, on va le refaire, dans ma vie, ça a été de lire. Et dans le désordre, d'ailleurs, rien n'est rangé. C'est-à-dire, je ne peux pas retrouver un bouquin parce que je les mets comme ça. Et j'oublie, mais je les garde. Voilà. Même ceux que je n'ai pas lus, il y en a beaucoup que je n'ai pas lus. Non, non. En fait, pour moi, être juif, c'est lire. Même ceux qui ne savent pas lire savent raconter des histoires.
Merci Jean-Claude Grimbert. On vous retrouve à Moissac le 28 mai. On vous retrouvera à Moissac le 28 mai.
C'est dommage qu'on n'ait pas la formule Inch'Allah.